Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Après une année et demie, je crois que j'étais passé en février 2016. Alors peut-être une petite présentation est nécessaire pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je suis Albert Zandry, je suis pasteur à l'église de Saint-Denis en région parisienne, où était Steve Barnes pendant de nombreuses années. Donc j'ai travaillé à ses côtés. Il a été mon pasteur, mon mentor pendant une vingtaine d'années, parce que nous sommes arrivés à Saint-Denis en 1993. Je crois qu'il en est reparti en 2013, peut-être par là, hein. Donc ça fait à peu près une vingtaine d'années. La dernière fois, donc c'est Patricia, mon épouse, ici, et nous étions venus avec notre dernière fille. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons notre famille au grand complet ici. Donc je vais leur demander de se manifester. Donc je vais commencer par présenter, une fois n'est pas coutume, la dernière. Elle est toujours la dernière à être prononcée, donc pour lui faire honneur, on va commencer par elle. Ketsia, peut-être vous pouvez vous lever, hein. Ketsia, qui est ici. Ensuite, il y a Mathias, qui est le troisième. Kéran, qui est le second. Et puis Priscille, qui est notre fille aînée. Alors, Priscille est avec Vincent, qui est son mari. Ils sont mariés depuis le mois d'avril de cette année. Et Kéran est avec son épouse aussi. Il a tout juste aujourd'hui un an de mariage. Donc il a été marié l'été dernier. Voilà, merci beaucoup, hein. Et puis bien sûr, je ne voudrais pas oublier celle sans qui toute cette famille est improbable, impossible. C'est Patricia que vous connaissez, hein, qui est à mes côtés depuis 28 ans, qui me supporte depuis 28 ans maintenant. Voilà. Voilà, donc je voulais quand même les présenter. Puis je voulais dire que c'est pour nous un privilège d'être là. Bon. Eux, ils sont tous là aujourd'hui parce qu'on est allé dans un mariage à Nice hier d'une famille de l'église de Nice. Et donc, c'est pour cela qu'ils sont là. Mais bon, les deux couples vont repartir déjà dès ce soir. Et nous allons rester avec les deux derniers. Et puis Mathias part demain aussi, retourne demain ou mardi sur Paris. Donc nous serons, comme la dernière fois, tous les trois. Et puis on va terminer à deux parce qu'elle va partir au camp quelque part. Ce n'est pas pour nous déplaire, hein. Voilà, je voudrais aussi dire que voilà, je suis heureux de pouvoir être là avec vous. Nous serons là 4 dimanches et 4 jeudis. Donc vous allez devoir nous supporter pendant tout ce temps. Mais je ne veux pas être là de manière professionnelle le jeudi soir et puis le dimanche. Je veux que nous puissions avoir de la communion. Si dans ce que je dis, par exemple, vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez des questions, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir des échanges, vous puissiez me les poser, vous puissiez. On puisse se voir si c'est nécessaire en dehors des heures de culte et des études bibliques. Je veux faire au maximum un travail de pasteur. Simplement, bon, je ne vais pas remplacer Steve, il est irremplaçable, mais peut-être vous avez des questions ou des choses, voilà, et que comme c'est moi qui suis là, il faut les poser. Donc, sentez-vous libre, hein. Je veux dire, je ne suis pas là que le dimanche et le jeudi. Sentez-vous libre de nous téléphoner, de dire, voilà, on a besoin de prier ensemble. Et je pense qu'avec mon épouse, ça sera un plaisir pour nous de partager ces instants de communion avec vous. Voilà, je veux vous demander d'ouvrir maintenant votre Bible dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Alors, la dernière fois que j'étais ici, il me semble que on avait parlé un peu un mardi soir en tout cas, des disciples, le rapport entre le disciple et la parole de Dieu. Donc, je vous propose, pendant les 4 dimanches que nous serons là, de voir un peu encore ce thème du disciple et des différents rapports avec Jésus-Christ, les choses qui concernent le véritable disciple. Être un vrai disciple de Christ. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque qui est extrêmement, je vais dire, clémente spirituellement. Il y a des endroits sur la planète où les gens souffrent à cause de leur foi. C'est pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des familles ici en France, c'est aussi où les personnes souffrent pour leur foi, mais d'une manière générale, on ne subit pas de pression politique, d'emprisonnement, de choses difficiles. Et donc le chrétien, ici, n'est pas persécuté pour sa foi. Et il y a on a quand même une certaine liberté d'expression. Je pense que personne n'est venu ici, en tout cas pas beaucoup de monde, en ayant très très peur d'être arrêté par la police ou quelque chose comme cela. Et donc, mais c'est bien, on remercie le Seigneur pour cela, mais l'un des dangers de ce temps facile, c'est qu'on peut tomber facilement dans ce qu'on pourrait appeler l'illusion spirituelle. Beaucoup peuvent être plongés là-dedans, pensent que l'on est chrétien et parce que, voilà, hein, c'est facile de l'être. Avant, dire « je suis chrétien », c'était exposer sa vie. Maintenant, vous allez, les gens disent « oui, voilà, on est dans un pays chrétien, par exemple ». Et on ne sait pas trop ce qu'on met derrière ce vocable. Donc, au lieu d'être un chrétien véritable qui croit, on est parfois quelqu'un qui se croit chrétien. Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Corinthe en leur disant « examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Tout cela dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Et donc c'est le test de la réalité de la foi que l'apôtre propose ici. C'est celui que je veux vous proposer. Comment est-ce que le disciple vit véritablement en disciple? Donc aujourd'hui, nous voulons voir, commencer par le commencement, voir le disciple et la nouvelle naissance, parce qu'il n'y a pas de disciple sans véritable naissance spirituelle. Et puis on pourra parler par la suite d'autres thèmes, le disciple et son implication dans l'Église. On aura beaucoup d'autres thèmes comme cela que nous pouvons développer. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, ici au chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. En Jean, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 1er. Peut-être chapitre 2, déjà, verset 24. Chapitre 2, verset 24. Il dit, mais Jésus ne se... chapitre 2, verset 23, pardon. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais ici, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « tu es docteur d'Israël, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, j'ai intitulé ce message ce matin, le vrai disciple et la nouvelle naissance. Et les derniers versets du chapitre, comme nous l'avons lu, du chapitre 2, traite d'une certaine qualité de foi qui est exercée par certains. Il est dit plusieurs, verset 23, « crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait ». Donc, il y a une foi, certaines fois, qui est née des miracles que certains avaient vus. Mais le texte ajoute aussitôt que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Autrement dit, si nous les avions vus, nous aurions dit, ouais, c'est des personnes qui croient en Christ, mais Jésus les connaissait, il savait que cette foi qu'il manifestait, il dit plusieurs crurent en son nom, cette foi qu'il manifestait n'était pas une foi solide, parce que c'était une foi qui était essentiellement attachée sur les miracles. Et donc on peut voir ici que toute profession de foi n'est pas une foi authentique. Et il ne suffit pas souvent de clamer fort et haut, je crois en Jésus-Christ, ou j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, ou bien même de dire, je suis chrétien, pour que cela soit vrai. Donc Jésus connaissait, lui, nous dit le texte, ce qui était dans l'homme, et il ne se fiait pas du tout à cette foi qui était une foi superficielle. Donc on peut dire que les apparences sont souvent ici trompeuses. Hein, et nous, peut-être aurions été trompés. Nous pouvons être trompés. On a des exemples dans la Bible d'hommes qui ont été trompés par des professions de foi. Si vous lisez Actes chapitre 8, par exemple, avec Simon le magicien. Et donc, c'est important ici de saisir ce que Jésus dit de la vraie foi et du vrai disciple. Donc, à partir du chapitre 3, là ici, Jésus parle de cette foule collective, de ces plusieurs qui ont cru en lui. Et à partir du chapitre 3, on va avoir Jésus dans différents entretiens personnels avec des individus. Donc là, on commence avec Nicodème, par exemple, mais après, au chapitre 4, vous savez qu'il parle de la femme samaritaine. Et puis au chapitre 5, il va parler d'un fonctionnaire païen. Et à chaque fois, la question de la foi est celle qui est mise en avant. Et donc, la grande réalité devant laquelle Jésus met ici Nicodème est celle de la nouvelle naissance et de son rapport, bien sûr, avec l'entrée dans le royaume de Dieu. Et on sent, quand on lit ce texte que nous avons lu, on sent bien l'importance de la nouvelle naissance par la teneur du discours, la teneur de l'entretien entre Jésus et Nicodème. C'est un entretien personnel et on sent que c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, il ne parle pas pour dire des banalités. Et donc les choses sont essentielles, sont profondes. Et donc on fait, je crois, ce matin bien d'y prêter attention. Donc la nouvelle naissance, c'est un miracle. Quoi. Et il serait présomptueux de prétendre expliquer comment ce miracle s'opère dans tous les détails. Néanmoins, ce que l'on veut faire ce matin, c'est de regarder ce que Jésus dit, parce qu'on peut quand même se rendre compte de plusieurs choses à propos de ce miracle de la nouvelle naissance. Premièrement, on veut voir que dans ce que Jésus dit, voir l'absolue nécessité de la nouvelle naissance. Jésus montre que c'est absolument nécessaire. La nouvelle naissance est absolument nécessaire pour l'entrée dans le royaume de Dieu, pour être un véritable chrétien, un véritable disciple. Puis, ensuite, on veut voir la nature de la nouvelle naissance. Et enfin, quels sont les effets de la nouvelle naissance? Donc, la nécessité de la nouvelle naissance, la nature de la nouvelle naissance, et puis les effets de la nouvelle naissance. Si nous revenons donc à notre texte, Nicodème dit à Jésus, voilà, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. On a l'impression que Jésus parle tout à fait d'autre chose. Hein. Il parle tout de suite sur quelque chose qui est capital. Il dit, verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4, et Nicodème lui pose la question, « Mais comment cela peut-il se faire? Un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et puis naître ?» Jésus dit, « en vérité, verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et puis ensuite, il lui dit un peu plus tard, « Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. » en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, dit certain texte, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, premièrement, on peut dire que Jésus met Nicodème devant cette urgente, cette absolue nécessité de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et donc, Jésus exprime avec puissance, on pourrait dire, cette nécessité. Et cette nécessité est liée, on pourrait dire, premièrement, à la nature du royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on pourrait dire que c'est le royaume de Dieu et son entrée dans ce royaume qui nécessite cette nécessité d'être né de nouveau. C'est comme si on disait, bon, pour appartenir à la citoyenneté française, il faut être né sur le sol français pour avoir la citoyenneté française. C'est une nécessité qui est imposée par ce pays, hein, ce royaume-là, on pourrait dire. Eh bien, Jésus dit la même chose. Il dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. La nécessité de la nouvelle naissance est imposée par la nature même du royaume. Et cette réalité du royaume était bien souvent au cœur de ce que Jésus enseigne dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 1, par exemple, il dit, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et nous avons, à Saint-Denis, ces derniers temps, depuis plusieurs mois, nous étudions l'évangile de Matthieu et on est sur la section qui va du chapitre 5 au chapitre 7 où il est question du royaume des cieux et où Jésus parle de toutes les caractéristiques du royaume des cieux et comment doivent être ceux qui vivent dans le royaume des cieux. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc Jésus a insisté dans l'évangile de Marc sur la proximité, la venue imminente du royaume de Dieu et de la nécessité de la repentance, hein, parce qu'il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Les Juifs attendaient le royaume de Dieu, mais certainement pas de la bonne manière. Et ce que l'on peut voir, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais dans l'évangile quand on le lit, c'est que Jésus parle du royaume spirituel. Il ne parle pas d'un royaume... Bon, on pourrait dire que la terre, c'est le royaume de Dieu. Le monde, c'est le royaume de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Il règne sur toute chose. Donc, en quelque part, tous les hommes font partie de ce royaume qu'on appelle souvent le royaume universel de Dieu. Mais ce dont il parle ici, c'est du royaume spirituel. Il a dit à un moment donné, en Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». En Romains 14, par exemple, l'apôtre Paul dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit ». Donc, il montre que ce royaume est un royaume spirituel. C'est le règne de Dieu dans le cœur des croyants. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, l'apôtre Paul dit encore, « Ce que je dis, frère, quand il parle de la résurrection, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Donc, il parle vraiment de quelque chose qui est spirituel. Et tous les hommes ne naissent en dehors de ce royaume. On est tous sur la terre quelque part, nous sommes nés tous quelque part sur un coin de la terre, mais en ce qui concerne le royaume des cieux, tous les hommes naissent hors de ce royaume. Personne ne naît d'emblée dans ce royaume. Il y a des gens qui disent parfois « je suis né chrétien », vous avez déjà entendu ça, hein. Ça n'existe pas. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas dans le royaume de Dieu. On est hors de ce royaume. Et puis il faut naître de nouveau pour être introduit dans le royaume de Dieu. Donc personne ne naît dans ce royaume. Donc cette absolue nécessité, si vous voulez, est liée donc à la nature du royaume. C'est un royaume spirituel. Et donc pour y entrer, il faut être né de nouveau. On pourrait dire que cette absolue nécessité aussi est liée à l'incapacité humaine. Ici, là, Jésus dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est une cécité à cause de la cécité spirituelle de l'être humain. Il ne peut même pas concevoir les choses du royaume de Dieu. L'homme naturel, nous dit la Bible, est aveugle en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut le comprendre, il ne peut le saisir, il ne peut le discerner, il ne peut l'appréhender. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, par exemple, quand il dit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » C'est pour ça que parfois, quand nous parlons à des personnes, nous sommes surpris, nous disons « Comment elles ne comprennent pas cela ?» Ça paraît tellement évident. Mais quand on est aveugle spirituellement, on ne peut pas saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut prier pour que l'Esprit de Dieu touche et pénètre les cœurs, pour que sa parole puisse, que les yeux puissent s'ouvrir, que sa parole puisse être saisie et comprise. C'est pour cela que Jésus avait dit que le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc on est aveugle spirituellement. Et Jésus dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème prouve même ce que Jésus dit parce qu'il ne comprend pas quand Jésus lui parle de naître de nouveau. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Un homme peut-il, je suis vieux, un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et puis naître de nouveau? Il ne comprend pas vraiment ce que Jésus dit. Et donc, Jésus lui montre ici que la nouvelle naissance est absolument nécessaire parce qu'aucun effort humain, aucune capacité humaine, aucune intelligence humaine, aucune religion humaine, pas même baptiste, ne peut appréhender les choses ici du royaume de Dieu. Puis, cette incapacité humaine est montrée par l'impuissance spirituelle que nous avons. Nous sommes impuissants spirituellement. En vérité, je te le dis, verset 5, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume. Jésus avait dit, on ne peut voir le royaume, on peut le concevoir. Maintenant, il dit, on ne peut pas entrer. On n'a pas de force, de possibilité d'entrer dans ce royaume par nos propres efforts. Donc, non seulement l'homme ne peut pas le voir, mais en plus, il est impuissant pour y entrer. Toute l'énergie que Nicodème avait dépensée, Nicodème était, la Bible nous le dit ici, un docteur de la loi. Jésus l'appelle le docteur de la loi. Il était un chef en Israël, un érudit. C'était quelqu'un qui rassemblait une somme de connaissances théologiques, pratiques, et il appliquait sa vie à marcher selon la loi de Dieu. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer à quel point ces personnes étaient des personnes d'une, comment dirais-je, pieuse, quoi, qui voulait tout faire pour respecter la loi de Dieu. La Bible parle, Jésus parle de la dîme, il dit aux pharisiens, vous donnez la dîme de la menthe et du cumin. Hein. J'avais lu quelque part que s'il trouvait une pièce, quelque part, une petite pièce, dans la rue, il donnait le dixième de cette pièce, tellement il voulait donner toujours 10% de ce qu'ils avaient. Ils allaient jusqu'à l'extrémité lorsqu'il s'agissait de pratiquer la loi. Et c'est pour cela que lorsque Jésus rencontre ce jeune homme, vous vous rappelez qu'il lui dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Puis Jésus lui dit un certain nombre de choses. Il dit « Mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et il a fait ces choses dans sa jeunesse. On est loin d'imaginer, je pense qu'on serait tout petit dans nos souliers si on devait comparer notre engagement, notre sérieux observer la loi à la manière avec laquelle ces hommes observaient la loi. C'est important de le noter ici. Et c'est avec toute cette pratique, toute cette connaissance que cet homme vient vers Jésus. Mais Jésus lui dit qu'avec tout ça, c'est pas suffisant. On peut pas rentrer quand même dans le royaume de Dieu. Même en observant point par point sa vie, toute cette loi, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, à cause de son impuissance spirituelle. Tous ceux qui ont reçu, Jésus dit dans Jean, à ceux qui croient en son nom, plutôt l'apôtre Jean qui dit cela, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de rentrer dans le royaume est donné à ceux qui reçoivent Jésus-Christ par la foi. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Mais pas en amenant notre somme de connaissances ou notre pratique ou notre assiduité au temple ou que sais-je, notre engagement à la chorale ou notre présidence, notre prédication. Aucune de ces choses ne sont suffisantes pour permettre l'entrée du royaume de Dieu. Seule la nouvelle naissance le permet. Et puis je veux dire que, pourrais dire aussi que, en parlant de cette incapacité de l'homme pour entrer dans le royaume, eh bien on peut parler du fait que l'homme est charnel et tout ce que nous faisons est charnel. Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce qui est d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle que nous avons. Et ce qui naît de l'esprit est animé aussi par l'esprit. Donc c'est un principe, on pourrait dire, immuable d'hérédité, quoi. On est du charnel et tout ce qu'on produit est charnel. Et à moins de naître spirituellement, on ne peut rien produire de spirituel. Les œuvres produites par l'homme naturel sont toujours entachées par la nature pécheresse. Et c'est ce que le prophète Ésaïe dit quand il dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Un chat donnera toujours un chat. Vous connaissez l'expression. Et un être humain donnera toujours un être humain. Un homme charnel produira toujours que des choses charnelles. Donc nous sommes liés par notre nature. Nous ne pouvons rien faire pour entrer dans le royaume spirituel. Il faut être régénéré spirituellement. Il faut être né de nouveau. Et c'est pour cela que Jésus dit que cette nouvelle naissance, c'est une naissance d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne naît pas spirituellement, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc à cause de ce principe, on pourrait dire que l'homme est totalement incapable de devenir un enfant de Dieu à moins de naître de nouveau. Et on peut devenir un érudit, on peut devenir beaucoup de choses humainement. On peut devenir un érudit, un grand théologien, un brillant prédicateur, un fidèle membre d'église, un superbe chanteur dans la chorale, un grand musicien, un assidu aux réunions de prière, un infatigable colporteur de la parole de Dieu sans être né de nouveau. Tout ça, c'est possible, sans être né de nouveau. Mais tout cela ne nous amène pas dans le royaume de Dieu. Donc la chair ne donne naissance qu'à la chair. Seuls ceux qui sont nés de l'esprit peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est pour cela que Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis, je voudrais dire donc aussi cette donc, absolue nécessité, on l'a dit, est montrée par la nature du royaume, la nature spirituelle du royaume, elle est montrée par l'incapacité humaine, nos différentes incapacités, mais aussi montré par le fait que Jésus lui-même l'atteste. Jésus dit que c'est comme cela qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis. Et c'est Jésus qui parle ici. Et donc cette parole fait vraiment autorité. Jésus affirme qu'il n'y a qu'un seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu. Et il s'agit de naître de nouveau. Et quelle folie de croire qu'il y a plusieurs chemins. Parfois on dit tous les chemins mènent à Rome. Il y a des gens qui disent, oui, toi tu crois comme ceci, moi je crois comme cela. L'important c'est de croire après tout, voilà, on ira tous, comme quelqu'un avait dit, au paradis. C'est pas vrai. Jésus dit qu'il y a un seul chemin. Il dit, en vérité, je te le dis. C'est Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même éternel qui parle. Et quand il dit que c'est le seul moyen, il faut naître de nouveau. On peut croire ce que l'on veut. C'est ce moyen seulement qui permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc cette parole de Jésus fait autorité. Je veux dire que c'est une absolue nécessité. Cette absolue nécessité est montrée par le fait que Jésus lui-même affirme que c'est le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc l'absolue nécessité que Jésus présente ici de la nouvelle naissance. Deuxièmement, je veux dire, ce que Jésus montre à Nicodème, c'est la nature de la nouvelle naissance. Elle est absolument nécessaire. Bien sûr, on ne peut pas décrire tout le processus, comment est-ce qu'on est de nouveau? Qu'est-ce qui se passe quand on est de nouveau? Comment cela s'opère chimiquement? Oui, on n'a pas de réponse à ces questions-là. Néanmoins, on peut quand même, Jésus donne quelques éléments sur la nature de la nouvelle naissance. Il dit que la nouvelle naissance est une œuvre exclusivement divine. La nouvelle naissance est une œuvre exclusivement divine. Jésus emploie le terme de naissance, hein, pour parler de la conversion, de la régénération. Et donc, de même que nous ne produisons pas notre naissance physique, personne n'est né ici par sa propre volonté, que je sache. Vous n'avez pas dit un jour je veux naître, et puis voilà, vous êtes venu au monde, ça n'existe pas. Nous sommes trouvés dans le monde. Et bien, de même, on ne produit pas soi-même sa naissance spirituelle. Donc la Bible enseigne qu'avant la nouvelle naissance, l'homme, on a lu ce matin, hein, l'homme est mort spirituellement. Nous étions morts dans nos péchés. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Donc c'est une action qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus à la vie. Donc la nouvelle naissance est une œuvre exclusivement divine. C'est d'abord l'œuvre de Dieu. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et l'expression né de nouveau, hein, c'est littéralement né d'en haut. Si vous avez dans d'autres traductions, c'est peut-être écrit si un homme ne naît d'en haut. C'est-à-dire naître de Dieu. C'est une œuvre qui prend son origine en haut dans les cieux. Rien de l'homme ne peut produire la nouvelle naissance. C'est ce que dit, on a lu ce verset tout à l'heure, Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. C'est une œuvre qui vient de Dieu. L'apôtre Pierre disait: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est la même chose, hein? C'est aussi la nouvelle naissance dont il parle ici. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc cela vient de Dieu et c'est selon sa miséricorde. Donc une œuvre exclusivement divine qui vient de Dieu, mais c'est une œuvre qui souveraine aussi du Saint-Esprit. Jésus dit à Nicodème: en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, on a l'œuvre du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Et puis aussi, on pourrait dire que c'est une œuvre qui vient aussi du Fils de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Le verset 14 et 15, par exemple, disent: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la nouvelle naissance dont il s'agit ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc là, l'accent est mis sur l'œuvre du Fils. Donc une œuvre divine, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de des trois personnes, donc de la Trinité. Qu'est-ce qu'être, à ce stade, je pose une question, être né d'eau et d'esprit? C'est une expression assez étrange peut-être pour nous. Certains disent que l'eau, beaucoup d'interprétations sur ce passage, l'eau fait référence à la naissance naturelle. Et donc il faut d'abord être né naturellement pour être né du Saint-Esprit. Mais bon, à quoi ça sert de dire à Nicodème qu'il est déjà naturellement? Pourquoi lui dire il faut naître à moins de naître naturellement, et puis de naître de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il est déjà né. Et donc il ne peut pas. D'accord? Donc ça n'a pas de sens ici. Certains parlent du baptême de. Que ça. Cette expression parle du baptême d'eau de Jean-Baptiste, etc. Mais pas du tout. Ni du baptême chrétien. Les catholiques, voilà, on pensait beaucoup que ça parlait du baptême chrétien, par exemple. Et donc, c'est pour cela qu'il faisait baptiser très 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 tôt les enfants. Et la formule qui était requise, par exemple, à la fin d'une cérémonie de baptême d'enfants dans l'Église catholique, c'est: bien-aimé, cet enfant a été régénéré par le baptême. Il est né de nouveau par le baptême. C'est ce qu'ils enseignaient. Il est maintenant appelé enfant de Dieu. Mais on comprend bien quand on lit l'Évangile que ça n'est absolument pas le cas, parce que le baptême en lui-même, le baptême d'eau en lui-même, ne sauve pas. Donc il ne s'agit pas non plus du baptême chrétien ici. Il ne dit pas qu'il faut avoir reçu le baptême d'eau chrétien pour pouvoir être né de l'Esprit. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire dans cette expression ? L'eau donc, ne fait pas référence au baptême chrétien ici parce que ça n'a pas de sens non plus pour Nicodème. Ça ne se pratiquait pas non plus à cette époque-là. Et donc le baptême chrétien, qui n'existait pas à ce moment-là, ne pouvait pas avoir donc, de signification pour Nicodème. Donc pourquoi est-ce que Jésus dit à Nicodème, à ce moment-là, il faut naître d'eau et d'esprit ? Je pense qu'on a la réponse au verset 10. Quoi ? Il dit, tu es docteur, le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Quelque part, Jésus lui dit, c'est un docteur d'Israël. Donc il connaît tout, quoi ? L'Ancien Testament. Et Jésus lui dit, tu as la connaissance, tu es docteur, tu enseignes, et tu ne sais pas ces choses. Autrement dit, ce qu'il dit, il pouvait le connaître déjà de l'Ancien Testament. Et très probablement, cela fait référence au texte d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 28, où l'eau et l'esprit sont associés. Par exemple, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Et puis, après, il parle, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le corps de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, il parle ici de l'eau de purification et de l'esprit que Dieu donne. Et donc, ô esprit, Je lis ici ce que disait un théologien, il dit « L'eau et l'esprit font probablement référence au caractère double de l'œuvre de l'esprit dans la régénération, dans la nouvelle naissance. Il donne la vie nouvelle et purifie le cœur. » Donc il y a cette vie que Dieu donne et puis cette purification en même temps qu'il apporte à travers la nouvelle naissance. Par exemple, l'apôtre Jean dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous, purifié de toute iniquité. La confession des péchés, quand on vient à Christ, eh bien, il nous pardonne, il nous offre le salut, mais en même temps, il nous purifie. Hein. Il nous purifie de toute iniquité. Donc, la nouvelle naissance, on pourrait dire, donc, dans sa nature, est une œuvre entièrement divine, dans laquelle Dieu intervient, le Saint-Esprit intervient et Jésus intervient. Mais la nouvelle naissance aussi, dans sa nature, est une transformation radicale. La notion de naissance nouvelle évoque quelque chose de vraiment radical, qui n'a rien à voir avec ce qui était avant. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a une rupture nette, il y a quelque chose qui est véritablement radical. Et cette notion de naissance amène cette radicalité, cette révolution spirituelle. Et ça établit une séparation entre deux choses, entre deux mondes. Il y a d'un côté ceux qui sont nés de nouveau, et puis ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont nés sont vivants, ceux qui ne sont pas, ils sont morts, spirituellement parlant. Donc ça établit bien ici deux côtés. D'un côté, il y a ceux qui sont dans le royaume de Dieu, parce qu'ils sont nés de nouveau. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont hors du royaume de Dieu, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc la nouvelle naissance apporte une notion de radicalité, de tri, de séparation nette entre deux types de personnes. Et c'est cette réalité que Jésus soulève aussi ici, je crois. Puis troisièmement, on peut dire aussi que cette nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Quand on parle de naissance, on parle de la vie, bien sûr. On ne parle pas de la mort. Donc la nouvelle naissance, c'est la nouvelle vie. La nouvelle naissance aussi, quatrièmement, s'expérimente par la foi en Jésus-Christ. Comment cela peut-il se faire ? Demande Nicodème. Et Jésus attire son attention sur le besoin d'expérimenter cette nouvelle vie par la foi. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc ce que Jésus dit ici, c'est que à Nicodème, c'est que maintenant il faut que tu regardes à moi, Jésus-Christ. Il faut que tu crois en moi. Il faut exercer une foi véritable. Pas seulement dans le fait que je suis un docteur venu de Dieu parce que je fais des miracles. mais dans le fait que je suis le Dieu qui sauve. Et à moins d'avoir la foi, d'exercer la foi, comme cela a été fait dans le désert, pour ceux qui regardaient et qui avaient foi à la parole de Moïse, regardaient au serpent des reins, eh bien, à moins d'avoir cette foi, tu ne peux pas être sauvé. Donc la nouvelle naissance aussi, dans sa nature, exige que l'on exerce la foi en Christ pour pouvoir la recevoir. Donc, on a vu premièrement cette nécessité absolue que Jésus présente. Il faut que vous naissiez de nouveau. Quelques éléments sur la nature de cette foi, de la nouvelle naissance. Cela vient de Dieu, particulièrement. Il faut y adhérer par la foi. C'est une transformation qui est radicale. C'est l'expression d'une nouvelle vie. Et puis, je voudrais terminer ici en parlant des fruits inévitables de la nouvelle naissance. On ne peut pas, bien sûr, la produire nous-mêmes, et le Saint-Esprit est souverain dans la nouvelle naissance. Le mécanisme de la nouvelle naissance, ce qu'on appelle le modus operandi, le mode opératoire, ça nous échappe. Mais Jésus dit qu'on peut néanmoins, en connaître, ou en voir en tout cas, les effets ici de cette nouvelle naissance. Personne ne peut expliquer comment le Saint-Esprit opère pour faire naître spirituellement, et c'est un miracle qui échappe à notre compréhension, mais Jésus va faire comprendre à Nicodème que néanmoins, on peut savoir des choses sur la nouvelle naissance à travers ses effets, l'effet que cette nouvelle naissance produit dans la vie de ceux qui la possèdent. Et Jésus dit, prends l'exemple ici du vent. Il dit à Nicodème, le vent souffle où il, verset 8, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le vent souffle où il veut, tu le vois pas, tu ne sais pas d'où il vient, il va, mais tu vois que les feuilles bougent. Tu vois qu'il y a une tornade, tu vois que les maisons sont soulevées. On voit l'effet du vent. Autrement dit, Jésus dit que celui qui est né de nouveau, l'effet de cette nouvelle naissance se voit aussi dans sa vie. Et Jésus avait dit la même chose quand il dit on connaîtra l'arbre à son fruit. Hein? On peut crier haut et fort ce qu'on veut, c'est la manifestation de l'Esprit Saint dans la vie qui dira réellement si nous sommes un enfant de Dieu ou pas. Et Jésus dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'exemple qu'il prend du vent, il l'applique maintenant à celui qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne peut pas expliquer comment la nouvelle naissance s'opère. On a dit, c'est l'action de Dieu. Mais il y aura des effets qui sont incontestables pour celui qui est né de l'Esprit. Et ce que Jésus dit, il dit, il en est ainsi. Le Saint-Esprit produit toujours et agit toujours de cette manière-là, en produisant des effets dans la vie de ceux qui y sont habités. Et quand Jésus dit, il en est ainsi, il veut dire, il n'en est pas autrement. Hein? Il en est ainsi, ça veut dire, il n'en est pas autrement. Donc, s'il y a autrement, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui produit. Si l'Esprit de Dieu produit, il produit de cette manière-là. Et donc, quels sont les effets de l'Esprit dans une vie? D'abord, je voudrais dire que c'est la foi et la repentance. Quand l'Esprit de Dieu agit dans un cœur, il produit la foi toujours et la repentance. Quiconque croit que Jésus est le Christ, foi en Christ, et qui croit continuellement, est né de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean dit en Jean chapitre 1, Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, eh bien celui-là, il est né de Dieu. Et donc ce verset montre que la foi continuelle en Jésus-Christ est un signe de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a parfois des personnes qui disent à un moment donné de leur vie, moi je suis chrétien, qui ont manifesté des choses qui semblent dire qu'elles sont chrétiennes. Et puis, qui abandonnent le Seigneur, ça arrive. Hein? Et puis, qui passent des décennies dans le monde, loin de l'Église, et puis ou du témoignage chrétien, qui meurent comme cela. Nous ne pouvons pas dire, nous, en tant qu'êtres humains, avec certitude quelque chose, mais nous pouvons dire néanmoins que cette personne n'a pas manifesté une foi continuelle en Jésus-Christ. Et cette personne ne peut avoir aucune certitude qu'elle est un enfant de Dieu, aucune assurance qu'elle est un enfant de Dieu. On trouve des gens qui vivent comme ça, qui disent, je connais quelqu'un qui vit comme ça depuis des années, des décennies, qui dit, je n'ai pas abandonné la foi. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'abandonner la foi alors à ce moment-là. Hein. Vivre en Christ, c'est vivre continuellement. Lorsque l'apôtre Jean emploie l'expression croire, c'est jamais avoir cru à un moment donné, point. C'est toujours croire de manière continuelle. Quand il termine son évangile, il dit, tout ceci a été écrit afin que vous croyiez. Mais le sens, c'est afin que vous croyiez et que vous continuez à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, en continuant à croire, vous ayez la vie éternelle. Et il ne parle pas d'une foi qu'on a exprimée ponctuellement à un instant T de notre vie et qu'on a, et après qu'on a complètement rejeté. Et donc ici, la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ est né de Dieu. Vous voyez ici, c'est l'effet de l'Esprit dans la vie de celui qui croit. Tous ceux qui acceptèrent acte de sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On verra ce passage une autre fois, un autre dimanche. Mais ici, vous voyez ici, il est dit que ceux qui ont accepté sa parole, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont persévéré. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des trous d'air dans notre vie. Hein. C'est pas ça. On a tous des trous d'air, des moments. Ça peut durer plus ou moins de temps, mais celui qui a l'Esprit de Dieu qui agit en lui, eh bien, il croit continuellement en Christ. Il revient au Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre, pas que lui il fait, c'est une œuvre que l'Esprit de Dieu fait en nous. Le vent, il souffle où il veut, on ne sait pas, mais on entend le bruit du vent, Jésus. Il en est ainsi, et pas autrement, de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est ce que Jésus dit ici. Un autre effet, c'est la réorientation des affections. L'apôtre Paul le dit en Romains chapitre 8, par exemple, je vais vous lire ça rapidement. En Romains chapitre 8, il dit, verset 5, il dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Vous voyez, donc quand l'esprit agit en nous, produit des affections pour les choses spirituelles. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est impossible d'être un enfant de Dieu sans avoir l'esprit de Christ en nous. Mais si on a l'esprit de Christ en nous, Jésus dit que cet esprit produit des fruits. Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est, vous voyez, tout ce que la Bible dit. Il dit même que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, il y a une œuvre active de l'esprit de Dieu dans le cœur de celui qui est né de nouveau. Et cela doit nous interpeller au plus haut point pour ne pas nous laisser souvent dans cette léthargie, dans cette illusion d'être ce que l'on est, peut-être pas. En tout cas, de se repentir si on ne marche pas selon ce que le Seigneur nous montre ici. Et donc, ce sont, pour donner comme cela, quelques effets de l'esprit qui agit, du vent qui souffle, dont Jésus parle ici. Il produit la foi, la repentance, lorsque celui qui pêche et qui est au Seigneur, parce que nous péchons tous, hein, lorsque nous péchons, bien, qu'est-ce que l'Esprit nous pousse à faire ? Il nous pousse à nous repentir, à demander pardon. Nous ne sommes pas parfaits. Et lorsque nous avons nos trous d'air, nos moments où nous sommes éloignés de Dieu, l'Esprit de Dieu nous ramène au Seigneur. Il utilise des frères et sœurs pour le faire, mais il nous ramène. Et il nous pousse à la repentance et à la foi à nouveau, à redémarrer avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas rester indéfiniment, loin et très loin de Dieu. Parce que Jésus dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il bouge selon l'Esprit, comme le vent fait bouger les endroits, les feuilles ou les arbres, ce que vous voulez, là où il passe. ici. Et on peut lire des exemples dans la Bible de foi, je ne vais pas prendre le temps de le faire, mais de personnes qui se sont tournées vers le Seigneur, Zachée, le geôlier de Philippe, etc., où on a vu tout de suite des changements radicaux dans leur vie, et puis des fruits qu'ils ont commencé à apporter. Hein, ce qu'ils faisaient auparavant, non seulement ils ne le faisaient pas, mais ils allaient vraiment dans le sens contraire. Pour prendre l'exemple de Zachée, par exemple, il volait, et quand il s'est converti, c'est pas simplement arrêté de voler, mais il a commencé à donner. Non seulement il ne volait plus, mais il donnait aux autres. Et c'était un changement radical, et très certainement, qui a dû continuer dans sa vie. Je terminerai donc juste avec quelques mots de conclusion, pour rappeler que Jésus, bien sûr, ne dit pas exactement comment la nouvelle naissance est opérée ici, mais il montre très clairement que l'entrée du royaume de Dieu est attachée à cette nécessité impérieuse d'être né de nouveau. Ensuite, il montre quelle est la nature de cette nouvelle naissance. Nicodème, ce n'est pas par ton érudition, ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas par ton titre de docteur que tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Et cela nous interpelle, ce n'est pas parce que nous sommes moniteurs, monitrices de classe d'enfants, parce que nous prêchons tous les dimanches, parce que nous présidons, que nous chantons, que nous jouons de la musique, prenez ce que vous voulez, ou que nous distribuons inlassablement des traités sur la place du marché, que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas pour cela que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut absolument la nouvelle naissance. Donc Dieu montre que cette nouvelle naissance, elle est produite par Dieu lui-même, par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et qu'il faut pour nous exercer la foi, croire dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ pour être au bénéfice de cette nouvelle naissance. Et puis, Jésus montre aussi que cette nouvelle naissance produit des fruits, elle produit des effets dans notre vie. Donc ce qui nous rassure, ce n'est pas ce que nous disons, c'est les fruits que nous voyons qui se produisent en nous petit à petit. Bien sûr, ils sont faibles bien souvent, mais ils sont là. Hein. Ils sont là. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits, gros chez les uns, peut-être petits chez les autres, ils sont existants, l'esprit est là. Et puis, c'est avec notre rythme, mais en tout cas, il y a des fruits qui se produisent dans notre vie. Cela nous rassure et rassure aussi, bien sûr, nos cœurs. Et je voudrais dire aussi que, voyez, Jésus ne lâche rien sur la vérité. Lorsque nous parlons parfois aux gens, on a envie parfois d'arrondir les angles, de dire, peut-être pas parler de tout de suite de conversion, de nouvelle naissance, de cette nécessité, etc. Et de prendre les gens comme ils sont, de dire il faut... Jésus n'a pas joué avec Nicodème, il est allé directement au but. Il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est un changement radical, il faut que tu naisses de nouveau. Et nous ne devons pas avoir peur d'affirmer, avec douceur bien sûr, mais d'affirmer clairement la vérité et d'insister sur ce qui est la vérité. Je dirais aussi que la foi dans les miracles, Jean chapitre 2, on en a lu, et même dans la compréhension de la signification des miracles, ne suffisent pas pour être un véritable chrétien. La connaissance de beaucoup de choses de la parole de Dieu, même de pouvoir expliquer, pouvoir la saisir, ne suffit pas pour être un enfant de Dieu. Il faut absolument la nouvelle naissance. Et puis, dernier point, j'irai en conclusion que Jésus ne donne pas une information à Nicodème. Il lui montre une obligation. C'est-à-dire, quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, qu'il parle de la nature, de la nouvelle naissance et qu'il en donne les effets, il ne lui donne pas ça comme à titre informatif, d'information, pour sa culture générale. Il lui montre un chemin dans lequel il doit absolument entrer. Et chaque fois que Jésus parle, il montre un chemin dans lequel absolument. Donc, il lui montre qu'il faut qu'il ait la foi en Jésus-Christ et il faut qu'il se repente. Et pour nous, aujourd'hui, ce matin, c'est la même chose. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, ce texte n'est pas là pour vous dire simplement ce que c'est que la nouvelle naissance. Ce texte est un appel à croire en Jésus-Christ. Ce texte nous dit qu'on est soit dans le royaume de Dieu, soit hors du royaume de Dieu. Et qu'aujourd'hui, c'est un jour de salut dans lequel nous pouvons, durant lequel nous pouvons connaître Jésus-Christ véritablement et entrer dans ce royaume. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous en supplie, vous pouvez le connaître aujourd'hui. Croyez en Jésus-Christ. Il a dit, Dieu a envoyé son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quiconque, dit Jésus, exerce la foi en Jésus-Christ et se repent a la vie éternelle et appartient au royaume de Dieu. Et puis, ce texte nous parle aussi à nous qui sommes déjà au Seigneur, à vous qui êtes des enfants de Dieu, pour nous montrer que ceux qui sont dans ce royaume de Dieu bien doivent toujours continuer à exercer la foi et la repentance en Jésus-Christ, s'attacher pleinement à Jésus-Christ, à rechercher ces effets de l'Esprit de Dieu dans notre vie, chercher cette intimité avec Dieu afin que son Esprit agisse pleinement dans notre vie. Et cela nous interpelle et nous pousse à ne pas dormir sur nos lauriers, mais à considérer constamment notre propre vie, savoir si elle est vraiment en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis dans une baisse de régime? Voilà, je sens pas de production, il n'y a pas de vent qui fait bouger les feuilles autour de moi, donc bien, c'est le moment de revenir à Christ et de confesser nos péchés, parce qu'il dit que si tu confesses, celui qui confesse ses péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur nous aide. Le vrai disciple est un homme qui est né de nouveau et qui est né de Dieu. Quelle grâce, quelle chose merveilleuse. Prions. Merci Seigneur pour ta parole et je te prie que ton esprit nous aide à approfondir encore davantage ces choses. Et je te prie que par ton esprit, tu inclines nos cœurs vers toi. Nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes, aucun moyen d'accéder à ton royaume. Et nous te louons de ce que, ô notre Dieu, tu as envoyé ton Fils unique, qui a pris notre place, qui est mort à la croix du calvaire. Et de ce que, en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Merci pour ce salut si précieux et si merveilleux. Amen.